La première.
Bonsoir à tous. Nous vous proposons la diffusion de l'émission concédée Il était une fois. L'information revient quant à elle à 20h. Une belle soirée à vous sur La première.
Il était une fois. Une production des médias catholiques. Manu Van Lier.
Bonsoir à tous, bonsoir Sophie Timmermans.
Bonsoir Manu Van Lier et bonsoir à tous.
Avec nous aujourd'hui, trois représentants d'Action d'Amiens que nous recevons à l'occasion de la campagne annuelle. Maxime Lunga qui est responsable de la communication d'Action d'Amiens au Congo. Junior Losangania, un ancien malade qui vient témoigner de son parcours. Et Stéphane State qui est responsable de la communication pour Action d'Amiens en Belgique. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
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 Alors Stéphane State, je me tourne d'abord vers vous. Avant d'aborder de cette campagne 2015, quelques mots peut-être sur les origines d'Action d'Amiens et sur la figure du père d'Amiens, qui est encore aujourd'hui une figure présente dans votre action. On peut dire saint d'Amiens, puisqu'il a été canonisé. Alors est-ce que vraiment c'est encore une source d'inspiration aujourd'hui ?
Oui, au quotidien. On a pris quatre valeurs d'Amiens, de sa figure et de son travail. La plus importante, c'est le respect. Et c'est vrai qu'on essaie au quotidien d'appliquer cette valeur, tant en Belgique qu'avec nos bénévoles, qu'outre-mer, avec les soignants et les malades. Et pour nous, c'est fondamental. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait maintenant des projets un peu différents de ce qu'on faisait avant. On quitte parfois un peu les programmes nationaux qui couvrent une population importante, mais qui donc ont un filet relativement élargi. Et donc, les gens passent à travers ce filet. Et on essaye parfois d'aller vraiment jusqu'aux malades pour leur permettre de rendre une vie digne. Par exemple, au Congo, en Inde, il y a des anciennes léproseries qui sont parfois dans un état même pas imaginable, Molokai de l'époque. Eh bien, parce que nous portons le nom de Damien et parce que ce respect est quelque chose d'important pour nous, on a décidé parfois de les rénover entièrement. C'est des proseries. On ne peut pas non plus tout faire parce qu'il y en a parfois des centaines dans certains pays. Mais progressivement, on commence à faire ça. On rénove les proseries, on donne les moyens aussi aux anciens malades de vivre pour qu'ils retrouvent une dignité et vraiment figure humaine.
La lèpre, ce n'est pas une maladie dépassée. Il y en a toujours actuellement dans combien de pays ?
Oh, je peux pas dire combien de pays. La lèpre, c'est actuellement, disons, plutôt 230 000 malades dépistés par an. Les pays, combien? Je sais pas. Il y en a, à mon avis, une bonne trentaine. Nous travaillons dans 14 pays, mais pas toujours contre la lèpre. Mais nous travaillons principalement contre la lèpre en Inde et au Congo. On a encore d'autres projets aussi où on travaille contre la lèpre. Mais la lèpre, donc, c'est 230 000 malades dépistés chaque année. Il y en a aussi qui sont pas dépistés. Maintenant, quand on compare ça avec ce que c'était il y a 50 ans, lorsque Action d'Amiens est née, c'est tout à fait incomparable. C'était à l'époque des millions de malades par an. Et à l'époque de Damien, c'est encore pire, parce qu'il n'y avait pas de médicaments du tout. Donc maintenant, c'est 230 000 malades nouveaux par an, sans oublier peut-être 2 millions de personnes qui vivent avec des séquelles de la lèpre, qu'on essaie aussi d'aider. Ce ne sont plus des malades, ils sont guéris, mais parfois ils sont mutilés, parfois ils sont estropiés, et on essaie aussi de les aider.
Mais la lèpre, au fond, en quelques mots, c'est quoi exactement pour qu'on soit sûr que dans ce débat-ci, on soit sur la même longueur d'onde ?
C'est une maladie qui se transmet par un bacille. Donc c'est une maladie tout à fait banale. Et c'est une maladie en fait qui se transmet avec un bacille qui est très lent et très fainéant. Donc on peut très bien...
Et bacille, je vous interromps,
c'est
mais...
une bactérie, en fait.
Voilà. Okay.
Qui a été découverte en Norvège, donc c'est pas du tout une maladie des pays chauds, c'est une maladie des pays pauvres. Et c'est un bacille donc qui se développe très lentement. Donc parfois il faut 5-6 ans d'incubation avant que la maladie se déclare. Mais c'est aussi une maladie des pays pauvres parce que c'est une maladie qui frappe les gens qui sont déprimés, enfin, dont l'immunité est mauvaise. Donc si vous allez habiter pendant des années à côté d'un malade contagieux, et 1 sur 10 environ est contagieux, vous ne serez pas malade parce que vous êtes assez résistante. Mais si vous habitez dans les conditions où les gens vivent, dans certaines régions du Congo, d'Inde, de Bangladesh ou d'autres endroits, ben là, vous serez comme eux, vous n'aurez pas beaucoup d'hygiène, vous n'aurez pas une bonne nutrition, donc vous serez faible. Et dans ce cas-là, vous pourrez développer la maladie.
Alors chaque année, vous mettez en avant l'un ou l'autre pays dans lequel vous intervenez. Cette année, votre campagne porte à la fois sur l'Inde, mais surtout sur le Congo. C'est d'ailleurs pour parler de la mission d'Action d'Amiens que Maxime Lunga et Junior Losangania sont actuellement en Belgique. Alors Junior, on va commencer avec vous. Votre prénom et votre visage ne sont pas inconnus en Belgique pour les personnes qui suivent les campagnes d'Action d'Amiens, puisque depuis plusieurs années, vous avez été la figure de campagne en 2007. Racontez-nous un peu votre parcours et pourquoi justement en 2007 on a fait un film qui présentait ce parcours.
J'étais l'enfant de la rue et j'ai été abandonné, rejeté par ma famille. Et jusqu'aujourd'hui même, je ne connais pas mes parents comme je peux dire mon père. Et grâce à l'action d'Amiens, j'ai été guéri parce que ma tante, elle m'avait jeté à cause de la lèpre. Et l'action d'Amiens m'avait ramassé et il m'a traité et je suis ce que je suis aujourd'hui.
Et pourquoi votre tante vous avait-elle rejeté ?
Si ma tante m'avait rejeté, c'était à cause de la lèpre. Parce qu'elle ne savait pas que la lèpre s'est guérie. Tu peux prendre les médicaments et tu vas te guérir. C'était à cause de la lèpre que ma tante m'avait rejeté dans la rue. Si tu dis chez nous au Congo que j'ai la lèpre, les gens vont te fouiller. C'est un peu ça.
Donc là, vous dites que Action d'Amiens vous a recueilli. Comment ça s'est passé exactement? Vous étiez hébergé par des personnes d'Action d'Amiens ou comment ça s'est passé?
Quand j'ai trouvé Action d'Amiens et j'avais rencontré un infirmier qui travaille à l'Action d'Amiens, Constant Bouchiri, j'ai été traité par lui et c'est lui qui m'avait pris et maintenant je suis chez lui et je vis maintenant chez lui.
Et les traitements, ça se passe comment exactement? Des injections à faire tous les jours, c'est douloureux parce que nous, on ne connaît pas bien cette maladie. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on en guérit?
Premièrement, la lèpre, ça fait pas mal. Tu peux blesser. Tu peux toucher quelque chose, tu vas pas sentir. Parce que la lèpre, ça fait pas mal, mais ça détruit maintenant. C'est ça, ça détruit les histoires dans le corps, quoi. C'est ça, la lèpre. Et moi aussi, je ne savais pas que c'était la lèpre. Et quand j'ai pris, quoi, les médicaments, quand je suis présenté à la centre de santé, c'est à cause des centres de santé, on m'avait dit que j'ai la lèpre. Et à cause de ça, j'avais commencé le médicament. Mais je voyais les taches. Mais je ne savais pas que c'était la lèpre, parce que la lèpre, ça fait pas mal. L'Action d'Amiens, il est en train de guérir. Il s'arrête pas seulement avec les médicaments, mais l'Action d'Amiens aussi, il est en train de sauver, par exemple, des pauvres. Par exemple, moi, je ne savais pas lire et écrire. C'est ça. Et même pour parler. Mais aujourd'hui, l'Action d'Amiens, il m'a guéri et il ne m'a pas laissé comme ça. Et il m'a pris en charge. Il est en train de payer Minerval pour moi. Et aujourd'hui, je suis fier. Chaque fois, quand je me présente devant des gens et quand je parle devant les gens, je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. Mais ça ne vient pas de moi, ça vient de l'Action d'Amiens.
Maxime Lunga, je rappelle, vous êtes responsable de la communication d'Action d'Amiens au Congo. Alors, comment se passe votre travail au quotidien au Congo et comment est-ce que vous rapportez ça aujourd'hui en Belgique au cours de ces visites?
En fait, Action d'Amiens, au niveau des pays, travaille avec des personnels locaux. C'est pour dire que nous-mêmes, les représentants au Congo, c'est un Congolais. En fait, c'est une façon qu'Action d'Amiens fait pour assurer une bonne prise en charge, parce qu'on connaît la culture et tout. Et nous, en fait, on le fait aussi selon les valeurs que véhicule Action d'Amiens, qui est inspirée par les saints d'Amiens, le respect, la motivation, l'inspiration, mais aussi l'affection et l'amour. Donc, cela veut dire que nous... non seulement qu'on soigne de manière générale tous les malades de la tuberculose et de la lèpre là où nous travaillons, mais aussi on cherche des cas un peu spécifiques comme Junior par exemple. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de cas qui sont suivis de manière particulière, leur réintégration dans la société, on paye l'éducation des enfants, des anciens lépreux, même d'autres tuberculés, et on réhabilite les infrastructures sanitaires, les centres de santé qui ont été délabrés à travers le chantier d'Amiens, mais aussi on a des projets de base pour des projets sociaux, économique et tout ça.
Comment est-ce que vous dépistez la lèpre? Est-ce que la majorité des gens viennent vers vos centres en disant je suis malade ou c'est vous qui allez à la rencontre des gens dans la rue pour essayer de les aider?
Bon, Action d'Amiens est depuis 1964 au Congo, donc ça fait 50 ans. Donc il y en a qui connaissent que voilà, si on a les symptômes de la tuberculose, il faut aller directement au centre de santé. Action d'Amiens est là. Vous serez soigné gratuitement, mais aussi parce que ce sont les maladies de la honte, la tuberculose et la lèpre. Donc on continue à informer et à sensibiliser, à conscientiser les gens à venir se faire soigner. Et donc ça, on passe aussi dans des écoles, on fait de sensibilisation au Congo, dans des églises aussi, on fait de projection de films dans des écoles aussi, mais aussi dans les villages, là où nous travaillons dans les provinces. Cela veut dire qu'il y a une frange des malades qui viennent à partir d'eux-mêmes, mais il y a une partie des malades que nous descendons sur le terrain pour aller les chercher et les orienter vers les centres de santé.
Alors Maxime, le Congo, c'est un territoire très étendu, c'est pas la Belgique. Est-ce que vous couvrez tout l'ensemble du Congo et est-ce que justement vous allez rencontrer les malades dans toutes les régions?
Au fait, Action d'Amiens n'est pas le seul partenaire du pays dans le cadre de la lutte contre la tuberculose de la lèpre au Congo. Donc nous occupons 6 provinces, je pense. Et ce ne sont pas des petites provinces. Hein. Les provinces sont comme des pays, évidemment. Donc 60% des malades congolais sont soignés par Action d'Amiens, de la lèpre ou de la tuberculose.
Est-ce que vous travaillez aussi sur la démolition du cliché, justement, des personnes au Congo et ailleurs qui ne sont pas atteintes, mais qui devraient peut-être plus s'ouvrir et accepter plutôt que d'exclure socialement leurs compatriotes?
Oui, mais aujourd'hui, d'ailleurs, la lèpre n'est plus soignée dans des léproseries. Donc, ceux qu'on dépiste aujourd'hui sont soignés et restent dans leur famille. Et aussi, au Congo, nous avons les anciens lépreux qui ont aujourd'hui créé des associations. À Kinshasa, nous avons les associations des anciens lépreux à l'hôpital de la Rive. Et en Bandaka, nous avons les anciens lépreux qui ont une association au niveau de l'ancienne léproserie Ionda. Donc, et pendant les journées mondiales de la lèpre, bon, voilà, ils sont là pour témoigner et tout ça. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, en fait, on fait tout pour que les gens comprennent que la lèpre, c'est une maladie contagieuse quand on n'est pas soigné. Et quand on est soigné, ça ne contamine pas.
Ceci dit, que, malheureusement, il y a encore du boulot, parce que l'année passée, à Kinshasa, j'ai vu une jeune fille qui devait avoir une vingtaine d'années, qui a été abandonnée par ses parents, enfin rejetée par ses parents parce qu'elle avait la lèpre. Elle a été opérée des deux mains et des deux pieds d'ailleurs, mais c'était une bouche inutile. Et donc les parents l'ont laissée sur le côté. Donc c'est vrai que le travail est fait, notamment au Congo, mais aussi ailleurs, pour expliquer, comme l'a dit Maxime, que c'est une maladie comme les autres. Mais on se heurte à des millénaires en fait de croyances. Et en plus, c'est une situation économique qui fait que les gens vivent dans l'urgence. Et dans une famille importante, si une personne est inutile, ben parfois les parents ont tendance à un peu laisser de côté, malheureusement.
Je vous propose de marquer à présent une petite pause musicale dans cette émission. On va écouter justement la marraine d'Action d'Amiens l'année passée. Il s'agit de la chanteuse belge Noa Moon. On l'écoute tout de suite.
Or did I waste my time? Did you ever feel the earth beneath like a record skips under your fingertips? And you know better than me what's going on in your head. And I want to be the only one who's laying in your bed. So to know how you melted all the snow. Oh, and now I want to know, are you the path that I should follow? I shiver when you're next to me uncontrollably, and especially rude to deny if I place my trust only. Or will it turn to dust? But you know better than me all the riddle in your head. A missing one last clue to believe that all I feel is true. And now I want to know, are you melting?
De retour dans la seconde partie de cette émission, Il était une fois, nous sommes en compagnie de trois personnes qui viennent nous parler d'Action d'Amiens, de la campagne d'Action d'Amiens 2015. Alors, je me tourne vers Stéphane State. La campagne, on en parle notamment par un film qui s'appelle Un papillon sur le fleuve Congo. On parlait dans la première partie de cette émission de la difficulté d'aller suivre les malades sur place, il faut aller à leur rencontre. Et c'est un des aspects qu'on voit dans le film Un papillon sur le fleuve Congo. Alors, expliquez-nous un peu l'objet de ce film.
En fait, chaque année, on met l'accent sur un de nos projets. C'est plus facile d'expliquer par l'exemple que par les mots. Et donc, on fait chaque année un film qui tourne dans les écoles et que la RTBF notamment diffuse aussi certaines télévisions locales. Et cette année, donc, on a pris le Congo parce que c'est un des pays les plus importants pour Action d'Amiens et parce que, justement, c'est un bel exemple des difficultés que nous rencontrons pour aller jusqu'aux malades. Et c'est vrai qu'au Congo, il y a certains endroits qui sont inaccessibles par la route. Et on ne peut y accéder que par le fleuve Congo, qui est un fleuve énorme, qui sert aussi d'ailleurs de frontière entre le Congo, Brazzaville et la RDC. Et ce fleuve, donc, nous permet, nous, d'aller dans la forêt équatoriale, jusque dans les villages de pygmées, par exemple, ou dans les villages repilotis, parce que sinon, il n'y a pas moyen d'aller jusque chez ces gens. Or, il y a pas mal de lèpre et de tuberculose dans le coin aussi. Il faut trouver un moyen de soigner ces gens, d'abord les dépister, puis les soigner. Et le fleuve est le seul moyen d'y arriver.
Alors, dans ce film, il y a un personnage central qui est Constant Bouchiri, qu'on voit dans son action. Constant Junior, c'est votre papa d'adoption.
Oui, comme j'avais dit, c'est aujourd'hui, maintenant, je vis chez Constant Bouchiri. C'est lui qui est maintenant mon père, parce que je viens de la rue, j'avais personne. Et aujourd'hui, je vis maintenant chez Constant, qui est aujourd'hui mon père. Constant avait 6 enfants. Et plus c'est moi maintenant, cet enfant maintenant, c'est moi qui est l'aîné de la famille. Et je suis chez Constant depuis 2007, après notre film. Et après notre passage ici en Belgique et jusqu'à aujourd'hui, je vis chez Constant.
J'imagine que ça doit être une fierté quand vous voyez le travail qu'il réalise au quotidien.
C'est très important ce qu'il est en train de faire. Pourquoi ? Je sais la souffrance de la lèpre. Et comme il est en train d'aider les gens, je suis très content de ça. Il est en train de sauver la vie des gens comme moi aussi j'ai été sauvé.
Stéphane Stage, je me tourne vers vous car la tuberculose, on en a déjà un peu parlé, c'est votre deuxième cheval de bataille. Quelle est l'ampleur de cette maladie dans le monde actuellement ?
Alors, quelques chiffres qui font peur. C'est 8 à 10 millions de malades par an et environ 1,5 million de décès par an. Donc toutes les 20 secondes, quelqu'un meurt de tuberculose. Mais on n'en parle pas parce que c'est chacun dans son coin, c'est tout au long de l'année. Mais quand on se rend compte qu'on est ici depuis peut-être un quart d'heure, donc ça fait au moins 45 personnes qui sont mortes quelque part dans le monde depuis qu'on parle. C'est absolument affreux. Il faut donc vraiment dire aux gens, attention, tuberculose, c'est un fléau. Alors, on la connaît aussi un petit peu en Belgique maintenant, ça revient en Belgique, mais on parle d'un petit millier de malades par an, généralement dans des conditions tout à fait normales, donc les gens peuvent se faire soigner. Mais Kinshasa, c'est 20 000 malades par an. Donc là, on voit aussi la différence d'échelle, enfin, entre les conditions plutôt. Et ici, les gens peuvent se faire soigner, mais là-bas, pas. Là-bas, les gens n'ont pas les moyens de se faire soigner. C'est aussi pour ça que nous, chaque année, on dit aux gens, aidez-nous. Parce que il n'y a aucune raison que, parce que quelqu'un est né là-bas, il n'ait pas droit à la santé. Le droit à la santé, c'est un droit universel. Donc, tuberculeux en Belgique ou tuberculeux à Kinshasa, il n'y a pas de différence. Enfin, il ne devrait pas y en avoir. La différence sont les conditions dans lesquelles vivent ces gens et dans les conditions dans lesquelles nous, on vit ici. Et donc, avec 40 euros, on arrive à sauver quelqu'un. 40 euros, c'est un prix de revient. Hein. Ce n'est pas les médicaments, c'est tout ce qu'on met en œuvre pour arriver au malade, le dépister, le soigner. Donc, c'est la jeep, c'est la moto, c'est le cheval. Parfois, c'est le vélo, c'est le laboratoire, c'est l'affiche, l'ordinateur. Tout ça ensemble revient à 40 euros. Mais 40 euros, en général, en Belgique, les gens peuvent le donner. Tout le monde ne peut pas le donner, attention. Hein, et c'est absolument abominable aussi que des gens en Belgique, parfois, doivent faire un choix dans leurs médicaments. Il arrive que chez pharmacien, les gens disent « je prends tel médicament, pas tel autre parce que c'est trop cher ». Ça ne doit pas pouvoir exister. Malheureusement, chez nous aussi, c'est absolument abominable. Mais en général, 40 euros, on peut les donner. Par contre, en général, que ce soit au Congo, mais aussi au Bangladesh, en Inde, au Nicaragua, au Laos, dans tous les pays où on travaille, 40 euros, c'est absolument impayable. Or, 40 euros, c'est le prix d'une vie. C'est quand même pas grand-chose, finalement.
Comment est-ce que le tuberculeux découvre sa maladie ? Quels sont les symptômes ?
Alors, le premier symptôme, c'est la toux. Si pendant 2-3 semaines, les gens toussent, ça veut dire qu'il y a quand même un risque de tuberculose. À côté de ça, il y a la perte de poids, très importante. Il y a des gens qui font 1m70, 75, 80 et qui pèsent 25 kg. Perte d'appétit, transpiration. Mais principalement, c'est la toux. Pour autant que ce soit une tuberculose pulmonaire, parce que ça peut aussi être ailleurs, la tuberculose. Hein, ça peut se mettre partout. Ça peut se mettre au cerveau, aux colonnes vertébrales. Enfin, c'est plus rare. Mais donc, la tuberculose pulmonaire se marie d'abord par la toux. Et notamment au Congo, il y a des affiches, beaucoup d'affiches, qui disent que si les gens toussent pendant 3 semaines, ils doivent aller d'urgence à l'hôpital pour se faire dépister.
Et alors, comment sont les traitements ?
Le traitement, en fait, c'est comme pour la lèpre. Ce sont des médicaments pendant quelques mois. Normalement, c'est 6 mois de médicaments. Maintenant, il y a un problème de tuberculose multirésistante. Si le malade est soigné, mais arrête son traitement beaucoup trop tôt, ce qui parfois arrive parce que les gens se sentent très vite beaucoup mieux, donc parfois arrêtent leur traitement, là, ils risquent de développer une résistance à un ou plusieurs médicaments. Donc là, ils sont ce qu'on appelle MDR dans le jargon, donc multi-drug resistant. Là, le traitement est beaucoup plus long. Maintenant, on a mis au point, Action Damien en Bangladesh a mis au point un traitement beaucoup plus court, enfin de 8 ou 9 mois, au lieu de 24 mois. Mais malgré tout, ça reste beaucoup plus lourd aussi, parce que ce sont des injections. La tuberculose normale, ce sont des médicaments. La tuberculose résistante, il faut des injections pendant quelques mois avec des effets secondaires importants. Donc, le défi, c'est d'arriver à ce que la MDR ne se développe pas. Et donc, pour ça aussi, on a mis au point avec l'OMS une stratégie qui s'appelle la stratégie DOTS. Donc, c'est un traitement observé directement qui veut que pendant 2 mois, au moins 2 mois, le traitement est donné sous supervision d'un paramédical, voire même d'un membre de la famille. Mais il faut que le malade prenne son médicament tous les jours. Et donc, c'est très théâtral, évidemment, ici, on est à la radio, mais les gens prennent leur médicament, mettent la tête en arrière, ouvrent la bouche et puis boivent pour être sûr qu'ils l'avalent. Ça pendant 2 mois. Et c'est suivi, il y a tout un suivi avec un dossier, etc. Et si pendant 2 mois le traitement est bien suivi, le risque de multirésistance devient très faible. Et donc à ce moment-là, en quelques mois, la personne est guérie. Mais le danger, c'est que si vous êtes contaminé par quelqu'un qui est résistant, vous êtes directement résistant également. Parce que le bacille a, entre guillemets, muté. Ça se voit très facilement d'ailleurs au microscope. Mais donc, il est tout à fait possible que quelqu'un qui n'a jamais été malade soit résistant parce qu'il était contaminé par un résistant.
Maxime, vous-même, vous avez été atteint par la tuberculose. Alors, vous êtes un peu le signe qu'on peut en guérir. Vous témoignez de ça sur le terrain aussi quand vous vous rendez au Congo ?
Ah oui, d'ailleurs, pour les faire très bien, on a créé une association locale qu'on dénommait Club des Amis d'Amien, qui est composée pratiquement des anciens tuberculés, et c'est le travail qu'on fait. On témoigne dans les centres de santé, et on va sensibiliser dans les églises aussi. On a composé des chansons, on a conçu des poèmes pour ça, pour les élèves. Et ici aussi, ma présence aussi, c'est parler de ce que nous, Action d'Amien fait au Congo, mais aussi de mon expérience. Comment est-ce que j'ai vécu la tuberculose?
Est-ce que vous rencontrez également des autorités officielles, justement pour demander parfois plus d'aide, hors de Action d'Amien, mais pour dire, voilà, on a besoin de moyens?
Oui, ça on l'a fait, mais il faut comprendre, chez nous, les autorités, ils ont d'autres priorités. Voilà pourquoi on a encore besoin d'Action d'Amien, sinon ça va être difficile. Mais bon, quand il s'agit des problèmes de taxes et tout ça, on essaie quand même de hausser le ton dans des réunions que nous participons. Donc le ministre me connaît très bien, et le directeur de programme me connaît très bien. Tout le monde qui travaille dans le domaine de la tuberculose, de la lèpre au Congo, ils connaissent la voix de Maxime, et les malades m'appellent tout le temps, les infirmiers même, quand il y a des problèmes de blocage de médicaments et tout, on essaye de faire quelque chose. Ils savent que je suis un grand syndicat, un grand activiste pour le tuberculose.
Et comment est-ce que vous avez vécu votre maladie? Était-ce douloureux? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti rejeté par vos proches? Ça se passe comment quand on apprend qu'on est tuberculeux?
Au fait, moi, je l'ai senti peut-être plutôt autrement, pas vraiment rejeté, mais le problème, c'est que je n'avais plus rien, j'étais devenu faible et j'avais les petits commerces avant d'être malade, et puis après, je l'avais plus. Donc, cela veut dire que j'ai vécu pendant 3 ans sans travail, et ma femme qui est couturière, elle a essayé pendant 3 mois quand j'ai attrapé la tuberculose. Après, elle aussi, elle avait fermé sa petite maison de couture, donc on a vécu comme ça sans quelque chose, sans revenu, donc c'était dur à ce moment-là. Ben, heureusement pour moi, parce que s'il n'y avait pas l'Action d'Amien, je ne pouvais pas payer ces traitements de 8 mois. Parce que je sortais de mon mariage, j'avais dépensé de l'argent pour mon mariage, j'avais fait des économies pour que le mariage réussisse. Et oui, c'était bien, mais malheureusement, une semaine après le mariage, j'ai été diagnostiqué de la tuberculose, très faible, parce que j'avais toussé et j'ai craché beaucoup de sang. Et juste après, j'étais devenu très faible avec les traitements efficaces, mais bon, efficaces pas seulement contre la maladie, mais aussi pour la personne qui en prend. Donc, il fallait quand même bien manger, mais bon, vous comprenez que quand on n'a plus rien, on ne mange pas non plus bien. Mais heureusement qu'Action d'Amien était là, donc je n'ai pas payé ces traitements, sinon j'allais mourir parce que je ne pouvais pas payer un traitement de 8 mois. Alors, les amis au Congo, quand vous avez quelque chose, vous avez les amis autour. Mais quand vous n'avez plus rien, il y a les gens qui ne vous côtoient plus parce qu'ils savent que bon, là-bas, il n'y a rien. Donc, ils étaient plutôt partis pour cela. Donc, ils ne me côtoyaient plus vraiment parce que bon, il n'y avait plus rien à partager. Mais au moins, j'ai tenu bon. Grâce à l'Action d'Amien, j'ai été soigné et guéri après 8 mois. À mon époque, la tuberculose est soignée durant 8 mois. Et c'était bien, j'étais guéri.
Maxime, on arrive doucement au terme de cette émission. Si je pouvais encore vous demander un témoignage, dans le sens en tout cas d'un témoignage, une histoire en particulier, un cas qui vous a peut-être marqué plus.
Je vais prendre une histoire d'un malade qui s'appelle Fouila au Congo. C'est la vie, il a souffert de la multirésistante. Un gaillard de 42 ans qui pèse 39 kilos, vous pensez, il a peut-être 1m 90, oui. Et Fouila, avant qu'on nous, bon, il était déjà sous traitement, mais avant que nous, l'équipe d'action d'Amiens, au niveau de la coordination nationale, qu'on le découvre, il était dans sa chambre avec sa femme. Et c'est sa femme qui l'a prené le matin parce qu'il ne pouvait plus marcher et qu'il l'a porté pour le faire sortir dehors. Comme ça, il a un peu de l'air dehors. Et les soirs, vers 16h, c'est sa femme encore qui le reprenait pour le remettre au lit. Et donc, au premier contact, bon, bien que je connais la maladie, mais quand je vois encore ces cas-là, je faillis pleurer. Mais bon, si je pleure, alors je ne donne plus de l'espoir aux malades qu'on visite. Donc, je lui dis non, ça va aller. Évidemment, il prenait les médicaments, mais il a fallu, aux côtés de médicaments, ajouter un peu de la nourriture. Donc voilà, on est rentré au bureau, on a posé les projets au bureau et les problèmes. Voilà, on avait de l'argent pour Fouila, Didier, pour qu'il mange. Alors maintenant, quand on a combiné le traitement et la nourriture, aujourd'hui, Fouila, il marche. Il a 57 kilos. Et encore, ce qui nous fait plaisir, parce qu'il a engrossé sa femme. Hein, donc, sa femme est bien engrossée. Donc, quand je vais rentrer, je pense que je vais trouver un petit. Donc, Fouila, il marche de nouveau. Il est tout beau, élégant. Il a récupéré sa force. C'est vrai qu'il doit encore besoin, il a encore besoin de quelques poids, mais déjà de 39 à 57, vous comprenez. Et puis, sa femme, elle est toute contente parce que, donc ça me marque toujours, quoi.
Stéphane, c'est sur ce beau témoignage qu'on va clôturer cette émission. Peut-être encore juste un mot pour préciser la campagne qui est en cours et comment on peut vous soutenir, simplement.
Il y a trois façons de nous soutenir. Et on peut faire les trois, d'ailleurs. Hein. C'est pas... On peut très bien combiner. On peut d'abord faire des dons. À partir de 40 euros, qui est le prix d'un traitement, le don est déductible fiscalement. Donc les gens récupèrent 45% de leur don en réduction d'impôt l'année suivante. C'est quand même, faut quand même le dire, parce que c'est pas n'importe quoi. Alors on peut aussi acheter des marqueurs. Les fameux marqueurs fabriqués en Europe, en Italie, c'est aussi important de le signaler. Ils ne sont pas fabriqués en Chine. Fabriqués en Italie, donc, ils coûtent 6 euros la pochette de 4. Ce sont des bons marqueurs. Franchement, on peut y aller. Certains me disent, oh, ils sont trop bons, je les ai encore. Mais ce n'est pas grave. Hein. Gardez-les, donnez-les, stockez-les. Ce n'est pas périssable. Écrivez. J'aimerais bien que les gens écrivent de nouveau. On voit moins de mails, écrivent. Parce que les marqueurs sont très bons et qu'il faut s'en servir. Et on peut aussi nous aider en vendant des marqueurs. On a besoin de bénévoles qui peuvent vendre des marqueurs, mais faire aussi autre chose. On a beaucoup d'activités au long de l'année. Donc si des auditeurs ont envie de nous aider, ils peuvent aller sur le site actionamiens.be et là, ils trouvent les coordonnées de mon collègue qui s'occupe du réseau de bénévoles, Pierre-Yves Gillet. Et donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour acheter, pour vendre, pour faire un don, pour faire n'importe quoi, mais toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Stéphane Steit, Maxime Lunga, Junior Losangania, un tout grand merci d'être venu témoigner ce soir et on vous souhaite beaucoup de succès pour cette campagne 2015 qui se poursuit, je le rappelle, jusqu'au 25 janvier. Merci aussi à Martine Mailleux pour la coordination de cette émission. À la réalisation et la présentation, c'était Sophie Timmermans et Manu Van Leer. Sophie, très bonne soirée et à dimanche prochain.
Bonne soirée Manu, bonne soirée à tous, à dimanche prochain. Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, mm-hmm. One life, one life's one need, and I mm-hmm. one love get to share. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same.
One love.